Eh bien, long time no see, comme disent les Anglais. On est content d'être de retour parmi vous. On est parti en vacances, on avait de l'herbe à couper dans notre petite maison de Montau, près de Pau, dans le sud-ouest. Mais surtout, on avait un mariage à faire à Nîmes. Un mariage qui a duré 5 jours. D'abord à Marseille pour le mariage civil, ensuite à Nîmes pour, dans un mât. Le mât de Peyre pour le mariage, et puis le dimanche, on a fait un brunch magnifique, et on est tellement contents, Yvonne et moi, de ce mariage de Julien et Élise, et tellement contents de nos enfants, et puis que nos deux garçons aient trouvé des filles du Sud, une niçoise et une paloise, Sud-Est, Sud-Ouest. Vous connaissez Emma et Simon, qui étaient là juste avant le mariage, d'ailleurs, du frère. Et on est aussi heureux de voir que nos enfants, à part notre fille aînée, mais que nos enfants, vous les connaissez, et il y a des contacts, enfin, plus que des contacts, une amitié avec nos enfants. Merci à vous et pour vos pensées pendant ce mariage qui s'est passé super bien. Alors, avant-hier, je suis allé au Tourade, dans une papeterie qui s'appelle Bureau Vallée. Et puis j'ai vu sur la porte qu'il y avait marqué « Votre papeterie sera ouverte le dimanche 27 août et le dimanche 3 septembre ». J'ai dit « Pourquoi ils ouvrent le dimanche ?» Et puis j'ouvre la porte et je vois plein de monde dans cette papeterie avec des chariots remplis. Puis je me suis dit « Ben ouais, c'est la rentrée ». J'y avais plus du tout pensé. C'est la rentrée des classes, c'est un peu la rentrée pour tout le monde. Alors la rentrée joyeuse peut-être, stressée également pour d'autres, angoissée encore. Je me souviens d'une institutrice en Belgique qui me disait qu'elle avait la boule au ventre à partir du 15 août. Pour la rentrée, comme en France, début septembre. Et je ne sais pas si c'est votre cas, si vous êtes angoissé, inquiet pour quelque chose, mais à tous les inquiets et les angoissés, les déprimés de la terre, j'aimerais vous dire ce matin que vous êtes en bonne compagnie. Élie, le prophète, n'a pas fait sa rentrée scolaire, mais il déprime grave, comme on dit, je pense, dans la région parisienne ou à Bordeaux, je ne sais plus. Il déprime grave. Alors, un peu le contexte pour Élie. Il est prophète dans le royaume d'Israël. Vous savez que le royaume d'Israël, de David et de Salomon, a été séparé en deux, par au nord le royaume d'Israël, au sud le royaume de Juda. Et donc là, ça se situe en Israël, au nord. Israël qui a gardé le nom Israël, Juda en bas. Et il y a un couple royal absolument malfaisant, Achab et Jézabel, qui entretiennent les prêtres du dieu Baal, ou d'Achéra, le dieu Baal, le dieu de la fécondité et de la guerre. Et il y a à l'époque 850 prêtres de cette religion de cette idolâtrie de la fécondité et de la guerre. Fécondité, on pourrait penser aujourd'hui à nos idoles de la croissance infinie, du toujours plus, les idoles de la force, du pouvoir, comme on peut le voir sur l'échiquier politique ou géopolitique aujourd'hui. La force, le pouvoir, la guerre, la violence, le toujours plus. Et Élie va les défier. Sur le mont Carmel, il va défier ces 850 prêtres de Baal et d'Achéra. Et il va, je vous passe les détails, c'est dans 1 Roi 18, il va avoir là une victoire éclatante sur ces prêtres. Il va invoquer la présence du Seigneur sur un sacrifice, il va rajouter de l'eau pour qu'on voit bien que c'est Dieu qui va agir. Pendant ce temps, les prêtres se font des scarifications, ils sont en extase, en exaltation pendant toute la journée. Mais il ne se passe rien pour les prêtres. En fin de journée, le feu de l'Éternel descend sur l'Holocauste et tout le peuple reconnaît que c'est bien le Dieu d'Israël, d'Élie, qui est le seul vrai Dieu. Victoire ! Incroyable ! Devant 850 prêtres qui ont perdu la face, et plus que cela en plus. Et victoire donc éclatante d'Élie sur le mont Carmel. D'ailleurs, à la fin, il court devant le char d'Akab et il fait 27 kilomètres en courant alors que il est dit rempli de force par l'Éternel. Élie serra sa ceinture autour des reins et puis mit sa robe sur sa ceinture et courut devant le char du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Oh, victoire. Et puis début du chapitre 19, grand contraste, verset 3, Élie prit peur. Élie prit peur parce qu'il y a Jézabel qui va dire cette phrase, « Que les dieux me punissent très sévèrement si Dieu, à la même heure, si demain, pardon, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Et Jézabel est une femme machiavélique, violente. Et Élie a peur. On peut parler pour Élie d'une dépression, une dépression post-adrénaline, l'adrénaline sur le mont Carmel. Et puis maintenant que c'est passé, l'adrénaline est partie, peur. Peur et bonne raison d'avoir peur, hein. Comme je l'ai dit, Jézabel est une violente. Alors, on peut se demander comment celui qui a défié les prophètes de Baal et triomphé d'eux par l'Éternel craint-il à ce point les paroles d'une femme impie ? A-t-il déjà oublié la puissance de celui qu'il sert ? Rien dans le texte, nous dit un commentateur, ne permet de l'affirmer. Par contre, la succession des événements laisse raisonnablement penser qu'Élie, même rempli par la force de l'Éternel, est complètement épuisé, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Et puis, deuxième signe de dépression, la fuite, il s'enfuit. Verset 3, toujours. Il s'enfuit, et puis un peu plus loin, il s'enfonça dans le désert. Il veut aller autre part. Il veut être seul. Il laisse son serviteur. Et il s'enfonce dans le désert. Il fuit. Il fuit les autres. Il s'enferme dans sa dépression. Certains ont des fuites en avant. Et s'enferment dans des comportements addictifs. Il y a aussi le signe de l'autodénigrement. À un moment, il va dire « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alors, pourquoi dit-il ça dans le désert ? Peut-être parce que le désert lui rappelle ses ancêtres qui ont passé 40 ans dans le désert. C'est le même. Ou alors, ça vient de nulle part. Ou ça vient de la dépression où on commence à jouer le jeu mortel de la comparaison. Et dans la comparaison à ce jeu-là, on perd toujours. On est toujours minable. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Sous-entendu, je ne vaux rien. L'autodépréciation, l'autodénigrement. Et puis, autre signe de dépression, le sentiment de solitude. « Je suis resté tout seul !» Il va le dire deux fois dans le texte. « Je suis resté tout seul !» On verra plus tard que c'est pas tout à fait vrai, mais il a ce sentiment de solitude, alors qu'il a lui-même viré son serviteur. Il aurait pu rester avec lui pour se sentir moins seul, mais il l'a viré. Donc, une sorte de sentiment de solitude, en même temps voulu, enfin, quelque chose de très bizarre. Je suis resté tout seul. En tout cas, il le sent. Il ne voit pas ceux qui sont autour de lui, comme souvent ceux qui dépriment ne voient plus leur entourage et leur amour. L'impression aussi d'être submergé. C'en est trop, dit-il. C'est incroyable quand même. Hein. Ce livre a été écrit à un roi, on va dire, il y a 3000 ans ou 2800 ans, quelque chose comme ça. Et il y a là tous les signes d'une impression, par des petites phrases. C'en est trop. L'impression d'être submergé, d'être devant une situation insurmontable. La vie paraît une montagne infranchissable. Aucun avenir devant soi. Mon avenir est derrière moi, disait quelqu'un. Et puis, dans la même phrase, c'en est trop, maintenant, prends ma vie. Et Élie s'assit sous un genêt pour demander la mort. Pas d'issue, pas de solution. Un petit peu comme Job qui dit « Il aurait mieux fallu que je ne sois pas né. Malheur, je maudis le jour de ma naissance. » Quand l'horizon est bloqué comme ça, il n'y a pas d'issue, on ne voit que celle-là. Élie est complètement déconnecté de la réalité. Il est complètement en perte de contact par rapport à la réalité. Mais quand le prophète Élie déprime, le Dieu prodigue, vous savez, en juillet dernier, on a parlé des deux fils perdus, on appelle la parabole du fils prodigue, mais dans l'histoire, c'est Dieu qui est prodigue. C'est Dieu qui dépense son amour, sa grâce, pour ses deux fils. Et là, Dieu va être un Dieu prodigue. Pour Élie, il va prodiguer ses soins. Et les premiers de ses soins sont des soins, on va dire, primaires. Il se coucha, Élie, et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois et lui dit « Lève-toi et mange ». Je cherche où il est question des... Je ne trouve pas, mais c'est des corbeaux qui viennent lui apporter à manger. C'est plus loin, mais bon, bref. Dieu pourvoit aux besoins primaires d'Élie. Une nourriture saine, de l'exercice physique, marche. Le médecin m'a dit de marcher au moins 3 fois par semaine, plus de 30 minutes. Je nage 2 fois par semaine, 25 minutes. C'est tout ce que je fais. Mais il m'a dit de marcher. Et c'est beau de voir que dans un premier temps, le seul souci de Dieu est de satisfaire aux besoins primaires du prophète. La nourriture, la boisson, le sommeil et l'exercice physique. Il prend soin d'Élie. Et il l'écoute sans lui faire de reproches, il le nourrit sans le presser de questions, il prend le temps nécessaire à son relèvement. Mange, marche. Et puis, il va ajouter un ingrédient essentiel aussi, il va lui donner un objectif. Tu vas aller jusqu'à Horeb, c'est la montagne sainte, c'est le Sinaï, Horeb. Et d'abord, et ça a beaucoup de signification, d'abord par le sens donné. Quelque part, Élie reçoit un rendez-vous, il obtient un rendez-vous, et le fait d'avoir un rendez-vous, savoir que vous êtes attendu quelque part, c'est conférer un sens au jour qui passe. Or, pour celui qui aspire à mourir, le temps perd toute signification parce qu'il semble vain, mais il ne l'est plus quand il a rendez-vous avec Dieu. Et dès ce rendez-vous, même s'il n'a pas encore eu lieu, est un réconfort pour Élie. Il y a un objectif, il y a un temps, il y a quelque chose. Ensuite, par le lieu indiqué, le Horeb, Sinaï, c'est la montagne de Dieu, l'endroit où Dieu a fait alliance avec son peuple et donné rendez-vous au prophète en ce lieu précis, c'est déjà signifié qu'Élie compte pour Dieu et qu'il veut se révéler à lui d'une manière spéciale. Et voilà qui donne un relief tout à fait particulier au temps qui passe désormais. Enfin, par la durée impliquée, 40 jours et 40 nuits de marche. J'ai lu quelque part qu'il y avait 400 kilomètres, ça fait un bon temps, un bon moment de marche. Et dans le désert de surcroît, c'est le temps de la patience et de l'épreuve, le temps de la patience de Dieu. Et Dieu prend patience avec lui. Dieu prend patience avec lui pendant ces 40 jours et ces 40 nuits. Il est là, même si peut-être Élie ne le sent pas. Connaissez cette histoire où quelqu'un marche dans le désert et puis il dit « Où tu étais, Dieu, dans ce désert, alors qu'il n'y a qu'une trace derrière moi ? Où étais-tu ? Tu ne m'accompagnais pas ?» Et le Seigneur lui répond « Je te portais. » C'est pour ça qu'il n'y avait qu'une seule trace. Élie, ou Dieu, porte Élie pendant ses 40 jours, il prend patience avec lui, il ne critique pas son serviteur pour son manque de foi ou quoi que ce soit. Nulle part dans le texte, il n'est reproché quoi que ce soit à Élie. Mais il chemine avec lui. Et puis, il va rétablir la vérité tout doucement. Il va, à la fin de la conversation, il va juste rappeler comme ça, entre parenthèses, qu'il y a 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ah, je suis resté tout seul, disait Élie. Ok, je t'entends. Et tout doucement, avec le tact de Dieu, avec la tendresse de Dieu, il lui dit, tu sais, la vérité, c'est qu'il y en a 7000 avec toi. Et puis, il se révèle d'une manière particulière. Élie, arrivé au terme de son voyage sur le mont Horeb, va dans une grotte, et puis là, il y a plusieurs éléments naturels qui défilent. Mais Dieu, nous est-il dit dans le texte, n'est pas dans l'ouragan. Il n'est pas dans le tremblement de terre. Il n'est pas dans le feu, symbole de jugement. Non, il est dans un son doux et subtil, ténu, subtil, j'aime bien le subtil. Dieu se révèle à Élie dans un son doux et subtil. Toute la douceur de Dieu, toute la tendresse de Dieu pour Élie, le prophète qui déprime grave. C'est comme si Dieu disait, comme il l'a dit à Paul, dans un moment difficile pour Paul, Paul de Tarse, Paul du Nouveau Testament, c'est comme s'il disait à Élie, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Une amie pasteur, encore jeune, qui passait des moments très 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 difficiles, elle me disait que ce qu'elle avait découvert pendant ces temps de dépression, c'était justement cette tendresse, cette proximité de Dieu, et non pas sa toute puissance qui est là, mais cette tendresse, cette proximité, ce sont doux et subtils. La puissance de Dieu se révèle dans la faiblesse, dans l'histoire de Dieu lui-même, dans l'incarnation, dans la croix. Et pour ce prophète habitué à une vie rude, à des défis contre 850 prêtres de Baal, Élie a besoin, pour retrouver son équilibre, de connaître cette facette de Dieu, cette douceur, cette patience, cette bonté. Et puis, après, Dieu pose une question à Élie. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Alors, c'est toujours les questions de Dieu ou même de Jésus qui sont toujours bizarres. Dieu sait très bien ce qu'il vient faire, puisque c'est lui qui a envoyé l'ange qui lui a dit d'aller à Horeb. Donc Dieu n'a pas besoin d'être informé de ce que vient faire Élie ici, mais Élie a besoin de le verbaliser. Et c'est là qu'il va dire « Je suis resté tout seul et ma vie est en danger, etc. » Enfin, pédagogue, le Tout-Puissant invite son serviteur à exposer sa plainte, à verbaliser son mal-être et en se faisant à se retrouver après ce temps d'errance. Dieu dialogue avec Élie. Et puis, dernier soin de Dieu, c'est Dieu pense à la relève. Et il va dire à Élie, écoute, après tout ça, tu vas aller oindre Hazaël, le roi, Jéhu aussi, et puis tu vas aller oindre, tu donneras l'onction à Élisée pour te remplacer. Dieu pense à tout. Dieu pense au remplacement d'Élie. Non pas comme une punition, mais comme un signe de sa tendresse, de son amour, de son soin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne lâche pas Élie, il lui dit, c'est toi qui vas aller les oindre, c'est pas moi, c'est pas un autre, tu es encore dans le coup, Élie. Je continue à être avec toi. Il lui prodigue les soins primaires, il l'accompagne patiemment, il l'aide à verbaliser son mal-être, il lui révèle sa bonté et le remet en route. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que Dieu aurait pu lui trouver un jeune remplaçant plein de fougue et plein de force, et qu'il laisse tomber Élie, mais c'est mal connaître Dieu, qui prend soin de ses serviteurs, qui prend soin des hommes et des femmes qu'il a créés et qu'il aime. C'est mal connaître, ce serait mal connaître son amour inconditionnel de Père que de croire qu'il peut lâcher notre main à cause de notre baisse de performance. Et si je déprime, et si tu déprimes, alors on aimerait bien que Dieu nous envoie une plancha avec de la ventrèche ou des saucisses, et qui nous souffle à l'oreille comme Robert Redford à l'oreille des chevaux, qu'il nous aime, etc. Mais ça se passe pas comme ça. Mais s'il ne fait pas complètement ou exactement ou de façon identique comme il fait avec Élie, il le fait d'une autre manière. Quand Dieu nous prodigue ses soins, il le fait par sa parole, qui nous dit que nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ. On l'a lu à la retraite du Conseil hier, le psaume 139, « Je te loue que je suis de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Nous sommes une nouvelle création. Que nous sommes, comme dit le prophète Ésaïe, précieux à ses yeux. C'est dans la parole. Et j'aime bien Jésus quand il nous compare à des moineaux, et qui dit « Vous valez bien plus que des moineaux. » C'est presque un understatement. « Bien sûr que vous valez bien plus. Vous avez une telle valeur à mes yeux et aux yeux de Dieu. Et les moineaux aussi. Mais vous en particulier, toi en particulier, qui déprime grave. » Et puis, pensez aussi, c'est dans cette parole de l'Évangile, que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, s'est donné à la croix pour que nous soyons ses amis, parce que nous avions de la valeur à ses yeux. Et dans Jean 3,16, on pourrait remplacer le quiconque. Il y a un pasteur, il y a 30 ans, qui me racontait l'histoire, qu'il disait Jean 3,16 à des jeunes qui ne connaissaient pas le mot quiconque, et qui le remplaçait par King Kong, afin que King Kong croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais si nous mettions notre prénom à la place de quiconque ou King Kong, afin que Olivier, afin que Bernard, afin que Camille, afin que Timothée ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et qu'il a donné sa vie pour toi, parce que tu as de la valeur. Lire la parole nous, c'est Dieu qui prend soin de nous par sa parole. On peut lire Jérémie aussi, Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir fait d'espérance, et non pas un avenir derrière vous, mais un avenir fait d'espérance. » La parole guérissante. Mais il faut bien le dire que parfois, quand on est au fond du gouffre, au fond du trou, la parole ne nous touche pas. Mais si elle nous touche encore, par des exemples comme David au fond du gouffre, qui nous en parle, comme c'est le psaume des profondeurs, là où c'est noir, quoi. Mais aussi qui nous dit dans la parole, je ne sais pas si tu n'es pas anormal. Regarde Élie, regarde David, regarde d'autres. J'ai lu un article et je vous ai lu quelques lignes de cet article du pasteur Étienne Lermenon, qui a été directeur du CNEF, président du CNEF, je ne sais plus, pendant des années, qui parle de sa bipolarité et de ses dizaines de crises de dépression. Et donc, se dire qu'on est en bonne compagnie et que Dieu prend soin de nous, quelque part. Et puis, il y a Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémané, hein, qui vit des angoisses énormes. Il est là avec nous. Et puis, deuxième petit mot, enfin, petit moyen par lequel Dieu prodigue ses soins envers nous par sa parole et puis par l'aide aussi de ceux qui nous entourent. Quelqu'un disait que les autres, les chrétiens, étaient les pieds et les mains du Christ aujourd'hui. Ces autres qui nous entourent et que l'on ne voit pas toujours, mais qui sont là, alors qu'ils sont là et qui ne cherchent pas, il ne faut pas, à trouver des solutions directement comme Dieu ne l'a pas fait avec Élie. Qui sont là avec patience, avec amour, qui sont tout simplement là. Oui, Dieu prend soin de nous encore aujourd'hui par sa parole, par les autres, par la communauté. Étienne Lermenot nous terminait son article en disant « La différence d'avec Élie, c'est que nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous avons la communauté, ensemble. Nous avons les uns les autres. » Et il cite ce texte de Jacques « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ? Si quelqu'un souffre, qu'il en parle à l'Église. » Et encore cet article ajouté à la fin, « En tout cas, ne restez pas seul. Parlez. » Criez à Dieu s'il le faut, ou aux autres, et criez au secours, même sous la forme d'un murmure, c'est aussi une prière que Dieu reçoit, que Dieu agrée. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole, la parole toujours actuelle de Dieu. Amen.